À 22h sur France Culture, le journal est présenté par Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. Coup de tonnerre dans la campagne des municipales à Paris. Benjamin Griveaux jette l'éponge après la diffusion d'une vidéo intime sur les réseaux sociaux. Les images ont été rendues publiques par un artiste russe. Nous vous dresserons son portrait en début de cette édition. Le retrait de Benjamin Griveaux dans cette course à la campagne à la mairie de Paris rebat les cartes de cette campagne. Nous évoquerons les enjeux et les conséquences avec le politologue Frédéric Dabi. Le groupe Renault de nouveau dans la tourmente. Le géant de l'automobile fait face à des difficultés financières et pourrait fermer des usines. Les personnels hospitaliers de nouveau dans la rue aujourd'hui. Ils dénoncent le manque de moyens dans les hôpitaux et Saint-Valentin oblige. Ils ont profité de cette journée pour déclarer leur amour au service public. Et enfin, les trains canadiens à l'arrêt. Presque aucun n'a circulé ce vendredi en raison de manifestations d'autochtones contre la construction d'un oléoduc. Nous retrouverons à Montréal notre correspondante. C'est un véritable tournant dans la campagne des municipales à Paris. Benjamin Griveaux, le candidat à La République En Marche, s'est retiré de la course. La cause, la diffusion d'images sur Internet et notamment d'une vidéo à caractère sexuel, ainsi que des captures d'écran, d'échanges privés qui lui sont attribués et qui n'ont par ailleurs pas encore été identifiés. L'ancien porte-parole du gouvernement dénonce des attaques ignobles après la mise en ligne de ces éléments, disant ne plus vouloir exposer sa famille à une campagne dans laquelle, il cite, tous les coups sont désormais permis. Tout au long de la journée, la classe politique a fait part de son soutien à l'ex-candidat macroniste à la mairie de Paris, tout en condamnant la diffusion de ces images. Elles ont été mises en ligne par Piotr Pavlensky, un artiste contestataire russe, et il dit tenir cette vidéo d'une source qui a eu une relation consentie avec Benjamin Griveaux. Et j'en dis revoir, Piotr Pavlensky est bien connu en Russie.
Piotr Pavlensky est un artiste controversé. Engagé, il se bat pour la liberté et la dignité contre la passivité de la société. Depuis le mois de mai 2017, il bénéficie en France de l'asile politique après avoir été accusé en Russie d'agression sexuelle. Des accusations qu'il qualifie d'infondées, mais qui, conformément au droit pénal russe, pourraient lui valoir une peine de 10 ans de camp. Avant cela, le natif de Saint-Pétersbourg s'était rendu célèbre lors de plusieurs happenings. En 2015, il avait par exemple mis le feu aux portes de la Loubianka, bâtiment tristement célèbre, abritant le siège du FSB, l'ex-KGB. Mais il est plus connu des Russes pour ses performances comportant des scènes d'automutilation. En 2014, dénonçant l'usage de la psychiatrie à des fins politiques, il s'était coupé le lobe de l'oreille, nu, sur le toit d'un institut de psychiatrie à Moscou. En 2013, dans une performance baptisée Fixation, toujours nu, il s'était cloué la peau des testicules sur les pavés de la Place Rouge et avait attendu recroquevillé sur lui-même l'arrivée de la police. En 2012, il s'était cousu les lèvres en signe de protestation contre le procès intenté aux membres du groupe punk Pussy Riot, des performances radicales qui illustrent la quête d'absolu que poursuit Piotr Pavlensky.
Une correspondance de Jean-Didier Revoin à Moscou. Benjamin Griveaux a donc été victime de revenge porn, traduisait revanche pornographique, un comportement passible de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. L'avocat de l'ancien candidat du parti présidentiel à la mairie de Paris a d'ailleurs annoncé qu'il porterait plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée par diffusion d'images à caractère sexuel. Cette annonce de Benjamin Griveaux rebat donc les cartes des municipales à Paris à un mois du scrutin. Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Alors d'abord, quelles sont les conséquences politiques après le retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris ?
Alors les conséquences, elles sont de deux ordres. Oui, d'un côté, elles apparaissent balayées parce qu'un des prétendants principaux au siège d'Anne Hidalgo renonce. D'un autre côté, il faut bien dire que la campagne électorale, les enquêtes d'opinion telles que mesurées par l'IFOP n'étaient pas favorables à La République En Marche en général et à Benjamin Griveaux en particulier. On peut même parler en termes de chemin de croix pour la Macronie. Hein. Rappelez-vous, Emmanuel Macron obtient presque 35% à l'élection présidentielle. Il arrive en tête également aux élections européennes. Et il y a eu plusieurs événements, la dissidence de Cédric Villani, un doute sur la sincérité du candidat Griveaux et le retour du bloc de gauche et du bloc de droite qui avait fortement amoindri les chances de Benjamin Griveaux. La première enquête faite par l'IFOP en avril 2018 donnait 32% d'attention de vote pour Benjamin Griveaux. La dernière, pour IFOP Fiducial et le JDD il y a une quinzaine de jours, ne lui donnait que 16%.
Alors comment doit réagir La République En Marche ?
Bien sûr, l'urgence face à cet événement inouï, hein, il y a très peu de précédents, en 2013 à New York avec M. Weiner, en 1999 quand Philippe Seguin s'était retiré 2 mois avant les élections européennes, c'est d'abord trouver très vite, une tête de liste pour La République En Marche. On est à un mois du scrutin. La ville de Paris, ce n'est pas une élection anodine, ça se prépare. Et c'est vrai que c'est d'abord trouver un remplaçant pour Benjamin Griveaux.
Quel profil, justement, pour remplacer Benjamin Griveaux ?
Je pense qu'il y a deux profils possibles. Il peut y avoir un profil ministériel, un poids lourd de la majorité présidentielle, même si le risque est d'activer, d'enclencher un risque de vote sanction dans un contexte où la popularité présidentielle connaît des difficultés fortes. L'autre profil, c'est un élu local, un élu du Conseil de Paris. On pense à Delphine Burkly, maire sortante du 9e, on pense à Pierre-Yves Bonnazel, député du 18e, mais ni l'un ni l'autre ne sont membres de La République En Marche. On parle aussi de Mounir Majoubi, qui n'est pas élu au Conseil de Paris, mais qui est député du 19e. En tout cas, quel que soit le nom qui aura été retenu, le profil, on peut imaginer une surprise ou une capacité d'En Marche de créer quelque chose, un nouveau jeu dans le champ politique parisien. Cela rend les chances, si je puis dire, d'En Marche extrêmement faibles.
Alors revenons, si vous le voulez bien, Frédéric Dabi, sur la campagne et le scrutin à Paris. Alors, à qui peut profiter cette situation?
Alors, la promesse d'En Marche à Paris, c'était de rallier des Parisiens de gauche et de droite. Dans la dernière période, on a très bien vu que c'est plutôt du côté de la droite que ça s'est passé, puisque au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, on a observé une dynamique en faveur de Rachida Dati qui a fait revenir au bercail, si je puis dire, de la droite parisienne, des électeurs de droite ayant voté pour Emmanuel Macron en 2017 et tenté par un vote Griveaux. Il y a aussi des choses qui se passent du côté de la gauche. Quand on regarde notre dernière enquête, on est frappé à quel point le potentiel électoral d'Emmanuel Macron de la présidentielle est convoité et complètement éparpillé. Sur 100 électeurs Macron de 2017, 30% choisissaient Anne Hidalgo, 28% Benjamin Griveaux et 21% Cédric Villani. Cet éparpillement, c'est le reflet des difficultés d'En Marche dans la capitale.
Alors, vous évoquiez cet éparpillement. Est-ce que les sympathisants de Benjamin Griveaux peuvent se tourner vers Cédric Villani?
Alors, on sait très bien, et on l'a bien vu en 2001 dans d'autres circonstances, c'est très difficile après des semaines de tension, d'une campagne compliquée, d'un refus exprimé à plusieurs reprises de Cédric Villani de se retirer, de voir les choses se raccommoder. Est-ce que Cédric Villani, c'est peut-être votre question indirecte, peut être désigné comme tête de liste pour la République En Marche? On le verra, mais il ne fait plus partie d'En Marche, il est apparu comme un diviseur, et surtout, on a entendu tous les porte-paroles de Benjamin Griveaux cette dernière semaine, voire ces derniers mois, le vilipender comme le responsable des difficultés de Benjamin Griveaux. À un mois du scrutin, je doute d'un rabibochage efficace.
Alors, sur une échelle plus globale, est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur l'image du président de la République et même sur l'image du parti présidentiel?
Je ne le pense pas. Les Français font la part des choses sur cet événement inouï, mais qui reste isolé. C'est vrai que ça peut, une fois de plus, apporter du moulin à ceux qui disent que le nouveau monde, décidément, ne vaut pas l'ancien. Les Français font quand même la part des choses entre ce type d'événement et ce qui forge le jugement, par exemple, à l'égard du président de la République, en termes de résultats, en termes d'action, que pèse cette affaire face au scepticisme grandissant et majoritaire des Français sur la réforme des retraites, face au sentiment que la politique menée est injuste, et de l'autre côté, face à cette partie non négligeable de l'opinion publique, 30 à 35% de Français qui considèrent qu'Emmanuel Macron est un président qui réforme efficacement, qui transforme le pays.
Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'IFOP. 3 mois après le plan d'urgence du gouvernement, les blouses blanches étaient appelées à descendre dans la rue aujourd'hui pour manifester leur colère et dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. À Paris, ce sont quelques milliers de soignants qui ont battu le pavé. Certains personnels hospitaliers ont profité de ce jour de Saint-Valentin pour faire passer leur message d'amour pour les services publics. Au CHU de Caen, dans le Calvados, des médecins, des infirmiers, des paramédicaux et des agents administratifs se sont rassemblés avec des roses blanches à la main, des fleurs que certains ont offertes aux patients de l'hôpital. Reportage de Marcelin Robin.
Comme c'est la Saint-Valentin, on a décidé d'offrir aux patients et aux visiteurs une rose pour leur dire voilà pourquoi on se bagarre pour défendre notre hôpital public.
Bon courage.
L'accueil des usagers du CHU est chaleureux pour cette nouvelle action. Maria a vu les conditions de prise en charge se dégrader avec le temps.
On s'en perd le matin et on sort le soir parce qu'il n'y a pas de chambre, il n'y a rien. Et on ne nous écoute pas non plus. Ça fait peur parce que maintenant c'est les riches qui sont soignés bien. Et les pauvres qui ne sont pas soignés.
Les revendications des personnels de santé sont toujours les mêmes. Plus de moyens pour bien travailler. Sylvie Guédot est secrétaire de la CFDT du CHU de Caen.
On essaye de faire de notre mieux. Le seul problème, c'est qu'on se retrouve avec souvent des restrictions régulières qui fait que les agents, je pense, qu'ils prennent sur eux pour essayer de garantir le meilleur service public. mais on se retrouve avec après des agents qui peuvent se retrouver en épuisement professionnel. Ça devient de plus en plus problématique.
Un constat partagé par tous les corps de métier. Johan Lebrasseur est frigoriste. Il s'occupe notamment de la ventilation dans les chambres et les blocs opératoires.
Quand je me déplace, moi, en dépannage, j'ai plus personne d'accès pour dire que j'ai fait mon travail, que j'ai des pièces en commande. Le personnel, il court partout. Il n'y a plus personne dans les services.
Le plan hôpital présenté en novembre dernier par le gouvernement ne donne pas beaucoup d'espoir aux manifestants. Il en faudra plus pour recoller les morceaux entre l'exécutif et les soignants.
Reportage signé Marcelin Robin de France Bleu Normandie. Le groupe automobile Renault de nouveau dans la tourmente. Après une année 2019 catastrophique sur le plan médiatique et diplomatique en raison de l'affaire Ghosn et sur le plan économique avec des pertes nettes établies à 141 millions d'euros, les responsables de Renault ont évoqué la possibilité de fermer une ou plusieurs usines sur la quarantaine qui sont exploitées dans le monde. Cette situation serait inédite depuis la fermeture du site de production de Vilvoorde en Belgique en 1997. Le groupe automobile emploie 183 000 salariés dans le monde, dont près de 50 000 en France. Fermer des usines Renault est donc une décision qui choque les syndicats. Écoutez Fabien Gache, délégué CGT chez Renault.
Le problème, c'est que la stratégie de Renault n'est pas une stratégie industrielle, c'est une stratégie exclusivement financière qui n'a pas d'autre volonté ou d'objectif, en tout cas, d'avoir des taux de marge toujours plus conséquents. Or, Renault dispose effectivement de moyens importants, puisque on a en trésorerie plus de 16 milliards. La dette de Renault n'a pas vraiment bougé. Renault n'a aucun souci pour payer sa dette. Donc nous, ce qu'on considère aujourd'hui important et déterminant pour l'avenir de Renault, c'est précisément pour diminuer les coûts, ça veut dire qu'il faut rééquilibrer les volumes de production, c'est-à-dire recharger les usines françaises avec des volumes de production qui ont été pour l'essentiel délocalisés en Turquie, en Espagne, en Slovénie, au Maroc, etc. etc. Et que par le fait d'augmenter les volumes, on diminue les coûts. Et donc, on arrive à un cercle vertueux. Alors évidemment, l'objectif là n'est pas le taux de rentabilité, mais de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux.
Fabien Gache, délégué CGT Renault, interrogé par Hakim Kasmi. Nouveau revers pour les antipesticides. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, sans avoir encore examiné le dossier sur le fond, a rejeté la demande de suspension en urgence des distances minimales d'épandage fixées en décembre par le gouvernement. Dans ce décret, l'exécutif avait confirmé après plusieurs mois de polémique les distances de 5 mètres pour les cultures dites basses comme les légumes et les céréales et de 10 mètres pour les cultures hautes comme les arbres fruitiers ou les vignes. Soulagement pour les 181 rapatriés de Wuhan à la fin du mois de janvier. Ils ont quitté aujourd'hui le centre de vacances de Kerry-le-Rouet où ils étaient confinés depuis 2 semaines. Aucun d'entre eux n'a été contaminé par le coronavirus. Le bilan humain de l'épidémie ne cesse de s'alourdir en Chine continentale. Il est de 64 000 cas confirmés et près de 1 400 morts. Par ailleurs, un premier cas de coronavirus a été détecté en Égypte. Le patient concerné a été transféré dans un hôpital et placé en quarantaine pour être soigné selon le ministère égyptien de la Santé. C'est donc le premier cas de coronavirus recensé sur le continent africain. Les autorités américaines vont quant à elles étendre les tests du virus aux personnes présentant des symptômes de grippe. Le ministre canadien des Transports profondément préoccupé par des manifestations contre un projet de gazoduc qui paralyse une grande partie du réseau ferroviaire du pays depuis plus d'une semaine. Aujourd'hui, presque aucun train de passagers et une grande partie des trains de marchandises n'ont pas circulé. Des manifestants des Premières Nations, un peuple autochtone du pays, ont érigé des barricades sur des points précis du réseau. Leur but, protester contre le passage d'un gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays. Les précisions de notre correspondante à Montréal, Pascal Guéricola.
L'effet du manque de trains commence à se faire cruellement sentir au Canada. L'activité de certaines usines en attente de matières premières ralentit, tandis que des exportateurs de bois ou de céréales doivent se résigner à stocker leurs marchandises. Le manque de gaz propane venu de l'Ouest inquiète aussi les agriculteurs et les particuliers dans l'Est du pays. Sans parler des passagers qui doivent se trouver une nouvelle façon de rallier leur destination du jour au lendemain. Cela fait maintenant plus d'une semaine que la tension monte sur le réseau ferroviaire. Tout cela a commencé alors que la police canadienne a expulsé de leur territoire certains chefs traditionnels de la nation Wet'suwet'en. Ces derniers s'opposaient aux travaux de passage d'un gazoduc au nord de la Colombie-Britannique. Les représentants élus des Premières Nations concernées avaient pourtant donné leur accord à ce projet. Plusieurs communautés à travers le pays ont cependant décidé d'appuyer les chefs traditionnels en bloquant la voie ferrée. Des environnementalistes les ont soutenus en occupant le port de Vancouver et plusieurs bureaux du gouvernement. Les pouvoirs publics tentent maintenant de dénouer la crise en rencontrant certains chefs traditionnels Wet'suwet'en.
Correspondance de Pascal Guéricola. La météo de demain avec du vent et de la pluie sur le nord-ouest et du soleil dans le sud du pays. Les températures resteront douces demain matin avec 4 degrés à Colmar, 6 à Montauban, 9 degrés à Angers et à Lille, la maximale pour Toulon avec 12 degrés. Demain après-midi, il fera plutôt bon, 12 degrés à Brest et à Bourg-Saint-Maurice, 13 à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Nîmes et la maximale sera de 19 degrés à Pau.